Regardez dans 1 Corinthiens 6. Et pour l'enregistrement, c'est Pasteur Morrison. Dans 1 Corinthiens 6, verset 7. Verset 6. Je lis dans le King James. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. Et au Massachusetts, dans le Massachusetts, il y avait une église qui avait des problèmes. Il y a eu une bataille avec les mains devant une église à la table de communion, littéralement. La police a été appelée, la police est venue, elle a arrêté les gens qui se battaient. Ils ont eu besoin d'aller devant un juge juif dans le Massachusetts. Et le juge juif a dit, je pensais, je ne connais pas grand-chose du christianisme, mais je pense que Jésus a dit de se pardonner les uns les autres. Et il a dit, et ce juge avait plus de compréhension biblique que ces deux gens de cette église. Mais donc, c'est ce qui se passe des fois dans le corps de Christ, parce que les gens ne sont pas enseignés de penser en termes de la nouvelle création et de se voir dans la nouvelle création. Et le prochain verset 7 dit, c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Déjà, vous avez failli en vous emmenant les uns les autres en justice. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Pensez à ça. Mais, et dans Éphésiens 1, quelle est dans Éphésiens 1, 23, quelle est l'Église? Son corps. C'est le corps de Christ. Dans 1, 22, il a mis tout sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Quand Christ est tombé et est mort, il a été enterré, s'il n'avait pas fait cela, il serait demeuré seul. Jean 12, 24, il serait demeuré seul. Mais parce qu'il est tombé en terre, et qu'il, comme une semence, il est mort, et il a porté quoi? Beaucoup de fruits. Et regardez le fruit, rien que dans cette pièce ici ce soir. C'est le fruit, c'est son corps. Et Dieu nous a établis dans son corps. Et il le fait en accord avec sa volonté. Vous êtes ici en accord avec la volonté de Dieu. Il vous a établi dans le corps. Il y en a qui disent, il y a beaucoup de bonnes églises. Et je pourrais dire, oui, il y a beaucoup de bonnes femmes, mais j'en ai qu'une seule. Hein? On peut dire ça aussi. Moi, j'en ai qu'une seule et je suis très heureux avec une femme. Très heureux que Dieu m'a établi dans ce ministère aussi. Et dans la vie de résurrection de Christ et dans le corps de Christ, on verra aussi des blessures. Et pourquoi ça se montrerait dans un corps ressuscité? Parce que Dieu veut les montrer, pour nous rappeler que dans la vie de dans la, le corps ressuscité de Christ, il y aurait encore des cicatrices, des blessures. Et dans la vie de Christ, on peut montrer les blessures de Christ. Paul a dit ça dans Galates 6, 17, « Je porte les marques de la mort de Jésus-Christ. » Il a été blessé en dans l'identification avec Christ.
Get to identify with Jesus Christ. And Proverbs 27:6 says, "Faithful are the wounds of a friend."
Excusez-moi, j'ai eu un arrêt de l'image et du son.
He's just telling me something I need to know, and I should accept that. And he's being a faithful friend. But it's the friend that has the wounds.
Ah, voilà.
If you
si,
are cheated,
si
if
vous,
you are wronged,
si vous avez tort dans le corps, portez cette blessure. Et ça, c'est être un ami fidèle. Fidèles sont ceux, sont les blessures que vous recevez. Ces blessures sont des blessures fidèles. Combien de fois pensez-vous que Pasteur Stevens a été blessé et sans réagir? Combien de fois Pasteur Schaller a été blessé et sans réagir? Combien de fois avez-vous été blessé et vous n'avez pas été, vous n'avez pas réagi, vous avez pardonné aussitôt et vous êtes devenu la manifestation de l'amour de Christ dans le corps de Christ. Donc la résurrection du corps, c'est l'Église maintenant. Et quand il est sorti de la tombe, il portait l'Église. Quand il est sorti du tombeau, et l'Église, c'est la plénitude de Christ. Et pourquoi y aurait-il la plénitude de Christ si nous n'étions pas la manifestation de tout ce que Christ est? Et ça implique aussi ses blessures. Et voilà que Thomas vient et il ne croit pas. Il dit, et si je voyais ses blessures, je croirais. Donc les incroyants viennent et touchent le corps de Christ ressuscité et ils disent, ils font et ils blessent les gens. Parce qu'ils ne sont pas sauvés et parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils blessent beaucoup de gens dans notre... Mais le corps de Christ supporte les blessures et il touche les blessures du corps et il voit Christ. Il voit sa miséricorde et sa grâce. Waouh! Ça, c'est magnifique. On apprécie l'expression de la vie dans la musique, l'amour, la persuasion, des paroles. Et on apprécie le ministère de Brooklyn. Et je pense que, il me semble, et nous étions lundi sur le golf, on donnait une... Et puis, on est déjà vendredi. Et il me semble, qu'est-ce qui s'est passé, au fait? Est-ce que j'étais conscient pendant toute cette semaine? Déjà, on est vendredi soir. Et j'ai reçu beaucoup, j'ai bénéficié beaucoup. Et Pasteur Morrison, ton message ce soir, il a mis dans les mots ce que nous pensions. Il a mis, je n'ai jamais entendu ça, je n'ai jamais entendu ce message, ces pensées, d'une certaine mesure, mis comme ça, c'était incroyable. Son message était absolument incroyable. C'était vraiment, vraiment. Et je pense qu'on devrait tous blesser. Et regardez votre voisin. Et regardez comme les blessures de d'un ami sont fidèles. Ma foi est offensée. Et je veux rester là où Dieu m'a établi dans l'amour de Dieu.
Et vous
pourriez dire peut-être au prédicateur de recommencer encore, de parler encore. Et vraiment, il faut vraiment que ce soit écrit, ces choses-là, et puis qu'on puisse les lire encore. Vraiment, un message extraordinaire. Pasteur Chiblé est notre prochain orateur, et je vais vous parler de lui un peu avant que vous l'applaudissiez. Je me rappelle de lui comme un jeune homme à Lennox. Il a vraiment été un serviteur tout le long que je l'ai connu. Une personne avec un réel... Vous savez comment un homme est un mâle, mais quand il suit le Seigneur, il devient un homme. Et Pasteur Shibley a vraiment fait ça. Il était missionnaire en France. Il a appris le français. Il a servi, devenu un serviteur, vraiment. Nous avions un missionnaire qui venait de Finlande, et c'était Casey Bright qui a marié Pasteur Shibley. Et ils sont devenus vraiment une équipe incroyable. Ils ont 5 enfants. Pasteur Shibley a été depuis des années dans le corps de Christ en train de servir, mais toujours sur mon cœur, j'avais mes yeux sur lui parce que je savais quel genre de personne il est. Et quand j'ai eu l'opportunité de rajouter un ancien sur le staff, j'ai eu son nom à cœur. Il a vraiment ajouté à notre équipe ici à Baltimore. Et en prenant cette vision de aimer Maryland, il a planté en plus une église à Silver Spring, à peu près avec une centaine de personnes dans son église, après quelques années, travaillant fort, aimant les gens, jamais expressant autre que la grâce de Dieu et l'amour. Il a vraiment ajouté à l'Église et on veut vraiment louer Dieu et l'accueillir. Père, merci tellement pour cette magnifique église ici. Et je suis tellement d'accord avec Pasteur Morrison que le corps de Christ est vraiment quelque chose qui a de l'importance pour moi cette semaine. Et pour la première fois, Seigneur Jésus, c'est comme ça devenu tellement réel pour moi, cette famille de Dieu revenant ensemble, des frères et sœurs qui arrivent de loin. Et on s'aime. On te prie, Seigneur, que ces paroles vont vraiment t'honorer, qu'ils seraient des choses qui vont être très importantes pour nous, parce qu'elles ont été préparées pour nous par le Saint-Esprit. Et je te prie vraiment que tu fasses que cela soit possible à travers ta puissance. Et je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai une histoire à vous donner ce soir. Et c'est une histoire triste, très triste. C'est une histoire qui est embarrassante dans un sens, choquante dans un autre, et vraiment brisante. Vous savez, l'histoire de Jacob, ses fils et son fils Joseph, tout spécialement, comment Joseph a ramené un mauvais rapport à son papa à propos de ses frères. Ils n'ont pas aimé ça. Et donc Jacob favorisait Joseph un peu plus, lui a donné une tunique de plusieurs couleurs. Donc Joseph était haï par ses frères. C'était une situation difficile. Et la Bible dit qu'il ne pouvait même pas lui parler gentiment. Et Joseph n'était pas très intelligent à cette époque. Il parle à ses frères de ses rêves. Puis peut-être, il a vraiment exacerbé la situation. Et eux, ils ont dit, tu veux qu'on s'agenouille devant toi? Et bien sûr, Joseph, qui avait que 17 ans, était très jeune. Mais c'est une histoire triste parce que ce qui s'est passé, on va sauter au verset 18. Et quand ils l'ont vu de loin, avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ça finit mal, quoi. Joseph est en train d'essayer de checker ses frères pour lui dire qu'il ne fait pas les choses de la bonne manière, et eux le voient et lui disent, on va lui faire quelque chose à propos de ses rêves, on va lui faire quelque chose. Beaucoup d'orgueil. Je connaissais des gars comme ça à l'école, sur le bus en allant à l'école, et ils ouvraient la fenêtre et sans honte, ils criaient des choses aux gens. J'étais tellement embarrassée moi-même. Mais il y a des gens qui peuvent être vraiment méchants. Et ceux-là, ils étaient vraiment au-delà de la méchanceté. Ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de anges, venez tuer-l'en. » Et Ruben entendit cela. Il a une attitude différente. Et il essaye de sauver Joseph au verset 21. Il le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Et Ruben leur dit, « Ne répandez point de sang. Jetez-le dans la citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Donc Ruben avait un plan d'essayer de sauver Joseph. Il était sur les 9 frères qui disaient, c'est pas une bonne idée de tuer le frère. Si on fait ça, mais il était, verset 23, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique. De plusieurs couleurs qui était sur lui. Ils le prirent, le jetèrent dans la citerne. Et cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Et ils mangèrent. Ils prirent le repas. Et donc, pouvez-vous imaginer Joseph? Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Quel est ce puits? Pourquoi avez-vous enlevé ma tunique? Et ces gars, complètement indifférents à sa situation, à ses angoisses, à sa faim, indifférents à sa fille, à sa vie, brutalement le jettent dans un puits. Et puis, ils mangent, prennent leur repas. C'est incroyable. Si vous regardez cette histoire, c'est incroyable. Ces gens contemplent s'amusent à tuer leurs frères. Et ils levèrent les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad, leurs chameaux étant chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas, grande idée, Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ?» Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 sicles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Je veux dire, vous voyez, Joseph, qui aime son père, il aime sa famille, il aime qui il est, il aime Dieu. Et le voilà dans son pays, sa patrie, au milieu de ses frères qui le vendent en Égypte. Et je ne sais pas si un jeune homme de 17 ans peut vraiment comprendre ce qui se passe. Oui, c'était un jeune homme brillant, il connaissait le Seigneur. Mais en même temps, quand vous connaissez le Seigneur ou pas, dans des circonstances comme ça, quand une circonstance vient sur vous comme ça, je ne sais pas si vous pouvez faire face à ça alors qu'il était derrière, tiré comme un esclave derrière le chameau, il a compris peut-être qu'il ne reverrait plus jamais sa famille ni son père. Et c'est incroyable. C'est pas uniquement tragique, mais c'est vraiment un meurtre. Il l'élimine envers une vie, la vie d'une autre personne, d'un esclave. Ruben retourne à la citerne. Et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je ?» Il prie alors, il n'y a que Ruben qui se tient là. Ils prirent la tunique de Joseph, la plongèrent dans le sang, envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils. Imaginez Ruben, qui était contre cette affaire, devait aller avec eux. Il n'avait pas besoin, mais il a été avec cette histoire, même s'il était contre. Il ne voulait pas aller contre ses frères, vraiment. Donc, ils ont conspiré en disant un mensonge à son père. Ils ont fait... C'est devenu une histoire terrible, alors qu'ils plongèrent la tunique dans le sang et la poussière. Ils ont envoyé cette tunique à leur père, et ils disent, « Voilà ce qu'on a trouvé. » Et maintenant, que ce soit la tunique de ton fils ou pas, et lui, il reconnut la tunique. C'est la tunique de mon fils. Et probablement, une bête l'a dévoré. Et probablement, le fils est en pièces. Et maintenant, tout ce qu'il reçoit de nouvelles de son fils, c'est une tunique complètement déchiquetée. Son fils, il prit la tunique, il se revêtit de sacs, de cendres, et il était en deuil pendant plusieurs jours. Il refusa d'être consolé. Il disait, c'est en pleurant. Sa culpabilité devait être incapable. Pouvez-vous imaginer la mesure de culpabilité envers son fils, non seulement parce qu'il était perdu, mais aussi parce que c'était son fils favori, mais aussi parce qu'il n'avait pas besoin de l'envoyer envers ses frères. Mais il l'a fait. Il l'a fait. Il se sentait coupable, il se sentait tout meurtri à l'intérieur, et on ne sait pas quelle pensée il a eue, qu'est-ce que j'ai fait contre Dieu, à quoi je pensais, est-ce que Dieu est en train de me redonner ce que j'ai fait dans le passé, et c'est des pensées de quand quelque chose de mal se passe dans notre vie, quelle raison, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela, sûrement. C'est quelque chose que j'ai fait. Et il ne voulait pas être consolé. Il pleura. Et pouvez imaginer Ruben, Jacob, qui a une grande culpabilité sur lui. Vous avez Ruben qui voulait être le héros. Pouvez imaginer Ruben, il voulait sauver son frère des autres frères. Et où est-ce qu'il est allé et qu'est-ce qui s'est passé? Mais il a raté. Il voulait le sauver, mais il n'a pas pu le faire. Et maintenant, il se sent complètement coupable que son frère est parti, vendu aux Madianites. Il n'y avait rien qu'il pouvait faire à ce sujet. Au lieu de dire à son père, qu'est-ce qui s'est passé pour que quelque part à suivre, les Madianites, aller les suivre pour voir ce qu'ils allaient faire avec son frère, mais il était trop faible pour faire ça. Et sachant devant son père que tout était un mensonge, qu'il n'était pas pour cela, mais il n'y a rien qu'il pouvait faire à ce sujet. Mentir à son frère, à son père, et voir son père avec un cœur complètement blessé comme ça. Et penser les neuf autres frères, je ne pense pas Je ne pense pas qu'ils s'amusaient avec ça, mais ils étaient tellement haineux, ils étaient tellement jaloux de lui. Mais maintenant, ils ne pensaient pas aux conséquences. Ils ne pensaient pas comment leur père allait réagir. Peut-être ils auraient reconsidéré la chose. Ils étaient fous. On va lui montrer. Oui, ils lui ont montré comme il faut. Et ils étaient vides. Ils étaient sans aide, sans espoir. Il n'y avait plus rien à refaire. Comme dans Hébreux 11, le plaisir, 11:25, le plaisir du péché pour une saison. Ils regardent la détresse de leur père, les larmes du père. Il n'y avait rien qu'ils peuvent faire. Il y a une histoire où on regarde ces deux caractères et ces neuf caractères, tous coupables pour différentes raisons. Et Jacob pense que c'est sa faute. Ruben pense qu'il était trop faible pour sauver son frère. Et puis il les a laissés faire leur conspiration. Et puis les neuf autres, alors les neuf autres révèlent qu'ils étaient vraiment coupables dans leur conscience, incroyablement. Et dans Genèse 42, ils disent, quand ils se parlèrent, ça c'est, voilà ce que nous avons fait à notre frère. Rappelez-vous l'angoisse sur son visage. Ils ont vécu avec cette culpabilité pendant des années. Rien qu'ils pouvaient l'enlever. Mais est-ce que ce n'est pas intéressant? On est de cette manière. On vit avec de la culpabilité, des choses qu'on a fait, des choses qu'on a dit. Il y a une illustration, et je l'ai utilisée déjà, et je l'aime. Ça vient d'un film, la machine du temps, et c'est la deuxième version. Et c'est, donc, vous savez, la machine du temps, revenir dans le temps, faire des choses, c'est un film, hein. Dans cette histoire, l'homme a une fiancée. Et la machine. Voilà, il est avec. Donc son nom est Alexandre, elle s'appelle Mara. Un voleur vient et leur vole tout. Mara devient, est tuée. Et il est. Le voleur s'enfuit et il regarde ce corps mort et il pense : j'ai la machine du temps. Je peux changer ça. Et il retourne à son laboratoire. Il commence à mettre en route sa machine du temps et il retourne en arrière. Et il refait toutes les. Il refait marche arrière dans le temps et il dit : je n'irai pas au parc. Je vais, il retourne, et il refait, à chaque fois qu'il retourne, elle meurt d'une autre manière, et à chaque fois qu'il retourne en arrière, elle meurt quand même, mais d'une autre manière. Il s'assoit avec ses frères, il est complètement en détresse, et il dit, je pourrais retourner 1000 fois en arrière, et la voir mourir 1000 fois différemment. Vous savez, c'est ça quand on vit dans la culpabilité, quand on vit dans notre passé, quand on n'applique pas le sang de Jésus et ce qu'il a fait pour nous sur la croix, l'œuvre accomplie, quand on vit et qu'on n'exerce rien dans notre vie chrétienne, on vit dans notre colère, on vit dans nos problèmes, dans les péchés qu'on a fait dans le passé, s'en rappelant constamment, en se disant, est-ce qu'il y a un moyen pour le fixer, pour le corriger? Et je me rappelle des choses qui étaient très mal quand j'avais 11 ans. Ça fait longtemps, mais parfois, notre pensée rejoue ces images. Et puis, on devient en détresse à ce sujet. Mais c'est une condition humaine. On ne peut pas changer le passé. On ne peut rien faire à ce sujet. Et il y a le fait de réaliser cela. Et ça touche les gens. Qu'il y a cette culpabilité qui rend les gens froids. Imaginez ce que Jacob aurait pu faire, mais Dieu utilise la méchanceté des hommes pour son plan. Ce que le diable avait prévu pour le mal, Dieu l'a changé en bien. Et dans le passé, nous ne pouvons pas le changer. On ne peut pas le changer. Si je n'avais pas lu je n'ai pas lu la Bible hier, je n'y peux rien. Si je ne l'ai pas lu assez, je n'y peux rien. Je ne peux pas changer ce que j'ai fait envers les gens. Je ne peux pas changer comment j'aime et comment j'ai aimé. On ne peut rien changer. Je ne peux même pas changer les péchés que j'ai eus envers les gens. Je ne peux pas changer l'avortement, le divorce, l'infidélité, abuser une épouse, abuser ou changer le fait que j'étais un drogué. Mais si je vis d'une manière où je retourne dans mes faiblesses, comme Ruben l'a dit, et penser, je ne suis pas fort assez, comme il a dit, et on va rentrer dans l'agenda du diable. Il avait un agenda. Il pensait vraiment qu'il allait gagner dans cette chose. Il pensait que c'était une bonne chose. Et Joseph, je l'ai bien eu, c'était un homme qui allait devenir quelqu'un de bien, et moi je l'ai cassé. Et Jacob, regardez, il est assis maintenant dans un sac et sous la cendre, il ne peut même plus parler tellement il est en détresse. Il avait un grand agenda dans toute cette situation, mais Dieu l'a aussi. Et Dieu permet ces choses qui arrivent dans nos vies pour qu'on puisse les utiliser. Pour que ça devienne quelque chose qui va aider les autres et va nous aider aussi. Si nous appliquons le sang de Christ, nous ne savons pas ce qui pourrait se passer. Nous devons arrêter de nous appesantir sur ce que nous ne pouvons pas changer. Ça nous rend froid. Peu importe comment on est, tout le monde expérimente la culpabilité, chaque jour, parfois, quelqu'un me dit, oh, tu as fait ça envers moi, et je me dis, oh là là, je suis tellement désolée, et souvent je regarde au fond de moi et je me sens mal, il y a des choses que je n'aime pas à mon sujet, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui ne va pas à mon sujet, voyez? On se condamne. La Bible dit que nous avons tort. Nous sommes tous coupables dans Romains 3, 19. Tout le monde est trouvé coupable devant Dieu. Mais Christ, à quel plan? Et on doit arrêter d'écouter les voix dans notre tête. Arrêter d'écouter de nous écouter nous-mêmes et commencer à nous parler à nous-mêmes et commencer à nous donner la vérité parce que Christ a pris notre culpabilité sur la croix. C'est pourquoi Christ a dit « Toutes choses sont devenues nouvelles ». Est-ce qu'on le croit? Si vous ne croyez pas ces choses, vous ne seriez pas là. Mais en même temps, il y en a quelques-uns d'entre nous qui retenons certaines choses. On est comme figé parce qu'on ne peut pas voir après les choses qu'on a fait que Dieu pourrait encore nous utiliser. Salomon, lui, réfléchissait à ça. Il disait les miséricordes de David. Si David a pu être pardonné, alors nous aussi. Dans Hébreux 10, 22, dit « Approchons-nous donc avec un cœur sincère et dans l'assurance de la foi, ayant notre cœur aspergé. » Avec de l'eau pure. Mais pourquoi il y a ce mot poneros, que notre conscience doit être nettoyée du mal, les tristesses, la conscience, elle a des douleurs, elle a des tristesses, elle est en douleur. Et elle doit être aspergée et nettoyée pour que nous ayons un cœur qui soit plein de l'assurance de la foi, pour que ces choses qui nous retiennent, ces choses qui nous ramènent tout le temps dans le même piège, qu'on puisse avoir l'assurance qu'elles ont été payées par Christ. L'apôtre Paul dit dans Romains 13 que les jours arrivent. Donc rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Pensez à Jacob. Il n'avait aucune idée qu'on lui avait menti. Pour une longue période et de longues années, il était séduit. On ne sait pas pourquoi Dieu fait les choses qu'il fait dans nos vies. On ne sait pas pourquoi la chose que la personne fait envers nous est vraie ou pas vraie. On ne peut pas évaluer la vie selon les gens qu'on voit. On ne peut pas évaluer Dieu en évaluant les gens. On ne peut seulement évaluer Dieu par sa parole. C'est sa parole qui va nous dire où est la vérité. Donc nous parlons la vérité à notre cœur. Nous ne nous écoutons pas nous-mêmes. Nous parlons à notre cœur. Et c'est pas ce qu'on ressent. C'est ce que nous savons. Et nous savons ce que Dieu dit. Dans Hébreux 12, 1, nous tous, environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons donc le péché qui nous environne si facilement et courons dans la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés sur Christ. Et Pasteur Chaleur nous a dit d'amener les gens à Christ l'autre soir. Je veux le faire. Cela nous dit d'amener nous-mêmes à Christ, à celui qui va dire la vérité à propos de qui nous sommes, de ce qu'il a fait et comment il nous a changés. Regardant Christ, l'auteur et celui qui a accompli notre foi. Dans Hébreux 4, 16, c'est pourquoi venons avec assurance au trône de la grâce pour recevoir la grâce et la miséricorde et être secourus dans nos besoins. Quelle histoire! C'est une histoire triste, très triste, complètement triste. Et je pleure en la lisant quand je pensais trop à ça. Mais la plus belle histoire, c'est l'histoire de la croix, l'histoire de la rédemption. Et comment, peu importe si nous sommes vivants aujourd'hui, Dieu peut nous utiliser. Peu importe où nous en sommes, nous devons mettre ces choses à part. La culpabilité, parce que je ne peux rien faire comment j'ai lu la Bible hier, mais je peux dire comment je la lirai aujourd'hui. Je ne peux pas dire comment je suis été en colère l'autre jour à mon travail. Je ne peux rien faire à ce sujet. Parce que c'est la grâce qui doit me diriger. J'ai été troublé dans mon cœur l'autre jour. J'ai demandé au pasteur s'il pouvait me montrer la voie. J'ai entendu le prédicateur crier. Mais c'est la grâce, plus rien d'autre. Il n'y a rien d'autre à faire. Dieu a tout fait pour toi. C'est la grâce plus rien d'autre. C'est gratuit. Ma pensée était coupable. C'est ma nature. J'ai fait le mieux que je pouvais pour faire les choses que je pouvais. C'est la grâce plus rien d'autre. Alors que ce pasteur me parlait, il n'y a rien d'autre à faire. Dieu a tout fait pour toi. C'est la grâce plus rien d'autre. C'est gratuit. Donc, si vous vous sentez mal en point, prenez mon conseil. C'est vrai. Croyez la parole de Dieu. Elle est vraie, bien plus vraie que tout ce que vous pouvez ressentir. Sa grâce vous a fait tout neuf.
Heavenly Father, we thank you for bringing us once again together here as we.
Seigneur, merci de nous avoir amenés encore une fois à cette merveilleuse convention. S'il vous plaît, baissez vos têtes. Et si quelqu'un ce soir n'a jamais reçu cette grâce, et peut-être vous vivez dans la culpabilité, peut-être vous pensez que vous n'êtes pas assez bon pour Dieu et qu'il ne peut pas vous recevoir basé sur les choses que vous avez dit ou fait. Le Dieu que je connais, c'est un Dieu de toute grâce. C'est un Dieu qui aime et qui vous aime. Si vous êtes là et que vous voulez croire en Jésus-Christ, le Sauveur, celui qui est venu à la croix pour vous, qui a démontré son amour pendant que vous étiez encore un pécheur, il est mort pour vous. Et dites ce soir, Seigneur, je veux me détourner de mes péchés et je veux avoir Jésus comme mon Sauveur. Et je te crois et je te reçois. Et avec toutes les têtes baissées, si vous voulez recevoir Christ, si vous voulez croire en lui ce soir, levez votre main. Levez votre main et croyez en lui.
Amen.